Voilà, donc on va partir sur quelque chose de réfléchi, on va bien réfléchir à ce que c'est que la sagesse. Alors, vous savez, frères et sœurs, que l'homme le plus sage que la terre ait jamais porté, à savoir le roi Salomon, il nous a laissé dans la Bible un très bel héritage de sa sagesse, et cela en trois volumes, à savoir l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, et puis les Proverbes. Alors, ce matin, comme je vous l'ai dit, c'est à travers le livre des Proverbes que j'aimerais vous entraîner à l'introduction de la recherche de la sagesse. Alors, tout d'abord, avant d'étudier ce qu'est la sagesse et de chercher d'où elle vient, j'aimerais ce matin que nous prenions toutes et tous conscience que le livre des Proverbes a été écrit par un homme qui a reçu de Dieu lui-même, en personne, sagesse, intelligence et puis aussi discernement. Alors, Salomon, c'était qui Salomon ? Salomon, dont le nom signifie « homme pacifique », était fils de David et Bathsheba. Bon, il commençait mal sa vie parce que c'était un enfant adultérin. Le prophète Nathan honora pourtant Salomon en l'appelant « Yedidia », le bien-aimé de l'Éternel. 2 Samuel 12, verset 25. C'est après la mort du roi David, alors qu'il avait 20 ans, Salomon, qu'il monta sur le trône et débuta son règne, c'était vers environ 970 avant Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, la première chose que fait Salomon, sa première pensée, je ne sais pas quelles sont vos premières pensées à vous, mais la première pensée de Salomon, elle va vers Dieu. En roi 3 nous dit que le roi se rendit à Gabaon pour offrir des sacrifices. Et Salomon offrit pas un sacrifice, il offrit 1000 sacrifices, 1000 holocaustes à l'Éternel. Alors, Salomon est reconnaissant à Dieu, la royauté, vous savez, elle n'est pas arrivée tout seul, il n'est pas né comme ça, avec de la facilité. Je vous ai dit, il est enfant d'un adultère, il a dû repousser les attaques de son frère Adonia, qui voulait prendre le pouvoir. Et puis, comme son père David, eh bien, Salomon s'est très jeune appuyé sur Dieu. Dès sa jeunesse, il a vraiment aimé Dieu. Salomon aime l'Éternel, mais aussi l'Éternel aime Salomon. Et vous savez que là, à Gabaon, durant la nuit, eh bien, l'Éternel il apparaît à Salomon, en rêve. Et il lui dit, « Salomon, demande-moi ce que tu veux, que je te donne. » Alors ça, c'est une demande extraordinaire. Moi, j'aimerais bien que Dieu me demande ça. Daniel, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Alors, personnellement, j'aimerais m'arrêter un instant pour réfléchir à cette intervention peu orthodoxe de Dieu. Alors, nous savons toutes et tous que l'Éternel ne promet pas à la légère. Et là, il ouvre une très large porte à Salomon en disant « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Alors, à première vue, Dieu prend un risque. En effet, Salomon aurait pu dire, aurait pu prendre d'ailleurs Dieu au mot, et il aurait pu exprimer aussi ses envies, ses désirs les plus extravagants. Par exemple, il aurait pu dire « Moi, je veux jamais mourir ». Dieu, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Que tout ce qu'il touche se transforme en or, comme le célèbre roi Midas, par exemple. Ça aurait été extraordinaire. Qu'il lui donne une femme déjà mariée. Ça aurait gêné Dieu, là, ça aurait été un problème. Qu'auriez-vous demandé, franchement, à la place de Salomon ? Moi, je réfléchis et je dis qu'en réalité, Dieu y prend peu de risques, car il connaît le cœur de Salomon, son Yedidia, son bien-aimé. Il sait que c'est un homme droit et intègre et qu'il ne demandera rien d'extravagant. Au pire, ce que Dieu pouvait redouter, ce que pouvait craindre Dieu, c'était que Salomon cherche à se faire plaisir dans le respect des lois de Dieu, qu'il demande par exemple une longue vie, des bénédictions terrestres, que Dieu s'occupe de ses ennemis, toutes des demandes humainement légitimes, mais tournées vers soi, vers un besoin de satisfaction personnelle. Eh bien, au contraire, Salomon exprime à Dieu une demande responsable. Il a pris conscience qu'en tant que roi, il avait la responsabilité de diriger un peuple, la responsabilité d'être un exemple, un roi juste et intègre. Voilà ce qu'il voulait être, Salomon. Alors Salomon fait ce que Dieu attend de lui. Il répond selon l'espérance que Dieu a placée en lui. Souvent, Dieu, eh ben, il nous met dans le cœur des choses que nous, on demande. Frères, sœurs, cette expérience vécue par Salomon, moi, elle me parle. Franchement, elle me parle. Mais est-ce qu'elle vous interpelle, vous ? Moi, je dis, c'est vrai, Seigneur, j'ai des responsabilités dans ma vie chrétienne. Je suis responsable de ma vie nouvelle en Christ. Voilà cette vie, Seigneur, que toi, tu m'as donnée en mourant sur la croix. Je suis aussi responsable de ma famille. J'ai créé une famille, mais j'en suis responsable. Tu m'as donné des dons, et je suis responsable dans mon Église. Hein, si je dois faire une prédication, je dois y réfléchir, je dois la méditer, je dois prendre du temps. Hein, et ça, c'est normal. Je veux être responsable de mon témoignage au travail, dans mon quartier. Là où je me trouve, je dois vraiment, j'ai des responsabilités. Alors Salomon répondit à Dieu, « Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » C'est incroyable ce qu'il demande Salomon. Frères, sœurs, dans sa demande, Salomon fait à la fois preuve de responsabilité, mais aussi d'humilité. Il veut servir Dieu le mieux possible, de toutes ses forces, de tout son cœur. Mais en même temps, il prend conscience qu'il n'en a pas la capacité et que seul, sans Dieu, il n'y arrivera pas. C'est ce que disait Jean-Haut ce matin. Sans Dieu, on n'y arrive pas. Frères, sœurs, nous avons reçu des dons, des responsabilités. Et bien souvent, pour honorer Dieu, nous pensons que par nous-mêmes, par nos propres forces, nous pouvons les assumer. Eh bien, ce matin, Salomon nous donne une leçon d'humilité. Lui dit, « Je suis jeune, je n'ai point d'expérience, aide-moi. » Il n'y a aucune honte à reconnaître qu'on n'y arrive pas, que c'est difficile, qu'on est dépassé par la tâche et qu'on a besoin de Dieu. Il n'y a aucune honte à ça. Alors ce matin, vous êtes peut-être dans la même situation que Salomon. Vous avez le désir de servir de tout votre cœur Dieu, mais vous n'en avez ni la force, ni la capacité. Alors je vous propose, moi, de reprendre avec moi cette prière de demande à Dieu. Vraiment de demander à Dieu, « Père, Seigneur, je n'ai point d'expérience dans ma vie spirituelle ou même dans ma vie pratique, mais j'ai le désir profond de te servir. Je veux te servir, Seigneur. Te servir de tout mon cœur. Accorde-moi, s'il te plaît, un cœur intelligent et aussi la force de te servir selon ta volonté. Amen. Amen. » Frères, sœurs, Salomon fait instinctivement ce que Jésus va nous enseigner quelques 10 siècles plus tard. Lorsqu'il dit à ses disciples et à la foule qui l'écoute, il leur dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Voilà ça en premier. Et tous vos besoins, tout ce qui crée vos besoins, vous seront donnés en plus. Matthieu 6, 33. Alors Salomon non seulement fait preuve de responsabilité, hein, il est responsable de son peuple, mais aussi de clairvoyance, parce qu'il veut plaire à Dieu. Que son père soit fier de lui. Alors, il va chercher Dieu en premier. C'est exactement ce qu'avait compris son père David. David, il avait les mêmes réflexes et les mêmes réactions. Psaume 37, 4, quand il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Attends de lui. » Frères, sœurs, dans nos vies, le plus important, c'est de chercher Dieu d'abord, de chercher Dieu en premier. Parce que le connaître, placer en lui sa confiance, c'est vraiment, réellement se faire du bien. C'est vraiment ça, se faire du bien. Alors, je vais encore vous parler d'une expérience personnelle. Vous en êtes peut-être marre que je vous parle de Wardia et de moi, mais je vais encore vous en parler parce que C'est vraiment un exemple qui rentre dans cette catégorie. Vous savez que lorsqu'on veut ardemment quelque chose, on a tendance à harceler Dieu. En tout cas moi, à le poursuivre de nos demandes. Alors, je vous ai déjà raconté comment, jeune chrétien, Dieu m'avait demandé de me séparer de la femme avec laquelle je vivais en concubinage. Il m'a dit, Daniel, tu te sépares d'elle et on n'en parle plus, c'est comme ça. J'avais reçu la conviction de la part de Dieu aussi qu'il me la rendrait, qu'il me la redonnerait comme épouse. Alors, le problème, c'est que Dieu m'avait retiré Wardia afin de me purifier et que je le cherche et le connaisse. Que je le cherche et le connaisse de tout mon cœur. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Mais moi, je passais mes journées à supplier Dieu pour qu'il me la donne. Je pleurais, je suppliais Dieu. Je cherchais pas Dieu, je le suppliais pour qu'il me donne Wardia. Je suis même allé jusqu'à lui fixer des dates limites. Je lui ai dit, Seigneur, je te cherche. Maintenant, je vais te chercher, d'accord, j'ai compris, mais tu me la donnes dans 6 mois. Dieu m'a clairement montré, déjà, tu te purifies, tu me cherches, tu apprends à me connaître, et c'est moi qui décide quand je te la donne pour épouse. Ça a duré 3 ans, quoi. Oui, parce que c'est Dieu qui décide, c'est la Seigneurie, c'est Dieu, c'est pas moi. Il y a un mode de vie clair avec Dieu, notre responsabilité, c'est de le connaître, le chercher. C'est de chercher sa volonté. La responsabilité de Dieu, c'est de veiller sur ses enfants et répondre à leurs demandes. Mais il ne faut pas se tromper et mettre la charrue avant les bœufs. La toute première chose, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Voilà, chercher ça en premier. 1 Roi 3:10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Plaire au Seigneur, être dans sa volonté. Ouvre une porte à nos demandes et à nos désirs loyaux. Ça permet à Dieu d'ouvrir toute grande sa main bénissante. Dans Esdras 8:22, on trouve la main de notre Dieu et pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Alors Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, non seulement je te donnerai un cœur sage et intelligent, c'est-à-dire ce que tu as demandé, mais je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Vous voyez comment il est Dieu ? Richesse, gloire et longue vie. Voilà. Ça, tu ne l'as pas demandé, je te le donnerai. On s'étonne parfois que des chrétiens soient bénis, mais c'est Dieu seul qui donne et qui décide selon son bon vouloir. Encore une fois, c'est ça la Seigneurie de Dieu. Ne vous étonnez pas. Il y en a peut-être qui sont plus bénis que vous, qui sont... C'est le désir de Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui décide. Alors la sagesse, d'où vient-elle la sagesse ? L'exemple de Salomon nous éclaire puissamment. C'est Dieu qui donne la sagesse. Beaucoup d'êtres humains cherchent la sagesse dans les livres et les exercices de yoga, dans les méditations bouddhistes. Job, dans la Bible, par exemple, dit, Job 28:12, la sagesse, où peut-on la trouver ? Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure ? Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Ce n'est pas sur terre qu'on peut trouver la sagesse. La vraie sagesse ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. Comme c'est Dieu seul qui donne la sagesse, eh bien Dieu appelle chaque femme, chaque homme pécheur à ouvrir son cœur à la sagesse. Dans le Proverbe 1, versets 20 à 24, voilà ce qu'on entend. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques, c'est-à-dire dans le monde, autour de nous. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, disant « Jusqu'à quand, stupide, vous complairez-vous à des sottises ?» Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer ? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance ? Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. La sagesse, elle appelle. La sagesse, elle appelle chaque homme, chaque femme. Et ici, la sagesse est personnalisée. Oui, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui éclaire, qui ouvre l'intelligence à celles et ceux qui vivent dans les ténèbres. qui donne la connaissance et l'instruction à celles et ceux qui vivent selon les principes de ce monde. La sagesse, elle dit, j'ai appelé, mais vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. Notre monde vit selon sa propre sagesse. C'est une sagesse humaine, c'est une sagesse charnelle qui n'a rien de commun avec la sagesse divine. En Corinthiens 3,19, voilà ce que dit Paul, ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Oui, le Seigneur connaît parfaitement les pensées des sages. Elles ne sont que du vent. Vous le voyez, ceux qui vivent selon les principes de sagesse de ce monde, ils ne sauraient plaire à Dieu et ont choisi de rejeter Dieu. Salomon, lui, connaissait déjà Dieu et Dieu lui a accordé une totale sagesse. Mais vous savez que la sagesse aussi, elle s'acquiert, elle s'accepte, elle s'apprend. Proverbe 2, versets 1 à 6. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, c'est ce que disait Jean-Haut ce matin, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, celle ou celui qui accepte de prendre en compte l'appel de Dieu, qui considère comme vraies ses paroles, qui les médite, qui les garde dans son cœur, s'ouvre à la sagesse. Si tu cherches l'intelligence comme de l'argent, si tu creuses pour le trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qui est révéré l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Et c'est en Dieu que se trouvent l'intelligence et la sagesse. Vous savez, une image, Dieu, il est comme une montagne dans laquelle se trouve un trésor spirituel. Pour celle ou celui qui veut le trouver, il faut ouvrir un boyau de mine et creuser. On ne peut pas trouver la sagesse et l'intelligence par hasard comme ça. Je me suis réveillé un matin, pape, j'ai trouvé l'intelligence et la sagesse. Connaître Dieu, connaître ses paroles, connaître ses préceptes est une porte d'entrée à la sagesse. C'est vrai que sans la connaissance, connaissance de sa parole, connaissance de Dieu, on ne peut accéder à la sagesse. Par contre, la connaissance ne fait pas à elle seule la sagesse. Par exemple, on ne peut pas passer et obtenir le permis de conduire si on ne connaît pas le code de la route. Si on ne l'applique pas, on peut savoir qu'il faut s'arrêter par exemple à un stop et ne pas le faire. Ça arrive. Et ne pas obtenir son permis. C'est pourquoi la sagesse demande plus que de la connaissance. Voilà. On peut connaître et pas mettre en pratique et ne pas pratiquer. Le psaume 111, verset 10 et le proverbe 9, 10 disent la même chose. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Sans ce facteur essentiel, qui est la crainte de Dieu, on ne peut accéder à la sagesse. Alors on peut se poser la question, hein, qu'est-ce que la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu, c'est d'un côté le respect qu'a l'homme pour Dieu. Celui ou celle qui reconnaît Dieu comme son Père le reconnaît comme autorité et le respecte. Malachie 1,6, un fils honore son Père et un serviteur son Maître. Si je suis Père, dit l'Éternel, où est l'honneur qui m'est dû ? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Voilà, la crainte de l'Éternel, le respect pour Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est aussi la peur qu'il inspire par la puissance qu'il génère. Il a créé le ciel et la terre. Et puis aussi le pouvoir de sauver ou de perdre. Matthieu 10, 28 dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » La puissance de Dieu, moi ça me fait peur. Frères, sœurs, on entre dans la sagesse en connaissant Dieu, en connaissant ses paroles et ses commandements, mais aussi en les comprenant, parce que des fois on ne les comprend pas, et en les mettant en pratique par crainte de Dieu. Alors, je vais vous donner schématiquement ce que j'ai compris, mais je pense que c'est beaucoup plus nuancé que cela. L'intelligence, c'est comprendre et connaître Dieu. La sagesse, c'est appliquer dans sa vie cette connaissance. Et puis le discernement, c'est la capacité de correctement choisir entre ce qui est bien ou mal aux yeux de Dieu. Alors, frères et sœurs, j'aimerais terminer cette prédication par trois belles images de la sagesse proposée par Salomon. Mais vraiment trois belles images. La première se trouve dans Proverbe 18:4. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Répétez-le. C'est beau. Franchement, David, le père de Salomon, avait déjà écrit dans le psaume 65, verset 10, « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau ». Il voulait montrer par là que les bénédictions de Dieu sont inépuisables et Dieu les distribue à celles et ceux qui cherchent et qui marchent dans la sagesse. Le fait d'être béni par Dieu n'exclut en rien les épreuves. Et ce n'est pas parce qu'on est éprouvé qu'on n'est pas béni. Ça, il faut le préciser. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vivent dans des épreuves et qui pensent qu'ils ne sont pas bénis. Salomon cite un très grand nombre de bénédictions qui accompagnent le juste, qui a trouvé la sagesse. Alors ce matin, je n'en mentionnerai que quelques-unes, vous laissant le soin de lire les proverbes. La sagesse, pour celle ou celui qui la possède, est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe 1:9. Elle fera les délices de ton âme, 2:10. Elle sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voilà, pour tous ceux qui font des exercices. Tes greniers seront remplis d'abondance. Tu seras heureux. L'Éternel bénira ta maison. La seconde belle image proposée par Salomon pour la sagesse se trouve dans Proverbes 3:18. La sagesse est un arbre de vie. Vous savez que l'arbre de vie se trouvait à l'origine dans le jardin d'Éden. Mais après la chute, Dieu éloigna l'être humain de cet arbre qui donnait la vie éternelle. L'arbre de vie symbolise aussi Jésus qui donne la vie éternelle à toutes celles et ceux qui se confient en lui et lui confient leur vie jusqu'au bout. Apocalypse 2:7, au vainqueur, celui qui ira jusqu'au bout, comme on l'a dit tout à l'heure. « Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors, non seulement la sagesse est une source de bénédiction pour celle ou celui qui la possède, mais elle fait vivre celle ou celui qui l'a acquise. Elle est un arbre de vie qui apporte salut et vie éternelle. De plus, elle nous engage dans une vie de connaissance et de consécration à Dieu. Si tu possèdes la sagesse, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Elle tient en réserve le salut pour les hommes droits et tu acquerras une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alors tu marcheras dans la voie des gens de bien, tes jours de vie seront prolongés et ta paix augmentera. Dieu aplanira tes sentiers. Ça aussi c'est important. Et la dernière image se trouve non pas dans le livre des Proverbes cette fois-ci, mais dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 12. « À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. » L'argent est pour celui qui le possède un protecteur puissant. En principe, le riche, il ne manque de rien. Il a une maison qu'il protège, l'argent pourvoit à tous ses besoins. Mais celui qui possède la sagesse et lui sous la protection puissante de Dieu. David, dans un élan de reconnaissance, interpelle son Dieu. Il lui dit, dans le psaume 31, verset 3, « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, sois une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur, Seigneur. » Tu es mon protecteur. Si la sagesse bénit et fait vivre ceux qui la possèdent, elle les protège aussi des pièges pernicieux que leur tend la vie. Vous savez bien sûr, ce monde est sans pitié et beaucoup de ses sentiers mènent vers la mort, car nous ne maîtrisons ni les événements ni l'avenir. Dieu étend sur les sages une main protectrice. La sagesse protège des pièges de l'âme, du filet de l'oiseleur. Vous savez, ce filet qu'on tend devant les oiseaux pour les prendre. Elle est aussi un bouclier. Ses sentiers sont paisibles. Alors, frères et sœurs, vous l'avez compris, on peut être chrétien, on peut aimer Dieu profondément et manquer de sagesse. Jacques, dans son épître, s'adresse spécialement aux chrétiens qui souhaitent recevoir la sagesse et aspirent à vivre une vie bénie avec Dieu. Il écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques rappelle encore, là, il rappelle que c'est Dieu seul qui donne la sagesse. Il la donne à qui la demande sincèrement. Mais Jacques prévient néanmoins. Il dit, attention, s'il la demande avec foi, sans douter. Vous savez que le doute constitue un obstacle à l'obtention de la sagesse. Par contre, la foi, la conviction, le désir profond de connaître Dieu favorisent sa réception. Un chrétien qui doute, dit Jacques, ne peut s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Donc j'invite toutes celles et ceux qui aspirent à recevoir la sagesse, et moi j'en suis le premier, je la demande, à la demander avec conviction, mais aussi avec persévérance, avec constance. Est-ce que vous le voulez ? Est-ce que vous voulez demander vraiment la sagesse à Dieu ? Alors je vous remercie pour votre écoute. Et avant de passer à la Sainte Cène, je vais prendre un moment pour prier. Oui, Seigneur, merci pour ces beaux livres sur la sagesse, sur l'intelligence, sur le discernement. Seigneur, merci parce que dans ta grandeur, Seigneur, tu as utilisé de sagesse et d'intelligence et de discernement pour créer le ciel, la terre et l'univers. Tu nous as créés aussi, Seigneur, et tu veux aussi que nous soyons sages et intelligents. Merci, Seigneur, d'accorder la sagesse et l'intelligence à tous ceux qui te la demandent, Seigneur, avec sincérité, avec conviction et avec foi. Merci, Seigneur, de nous aider dans nos responsabilités de famille, d'église, dans nos responsabilités personnelles, Seigneur, à user de sagesse et d'intelligence. Gloire à ton nom, mon Dieu. Amen.